Moi, j'avais une question effectivement pour Julien ce matin et pour vous. C'est par rapport au terme de communauté, en fait. Dans community organizing, il y a organizing, il y a community, et t'as pas beaucoup parlé de communauté. Vous en avez parlé un petit peu. Effectivement, la base du truc, c'est de prendre conscience d'une communauté d'intérêts, de destins, de problèmes. Et on est en France dans un système dit universaliste. Est-ce que c'est pas qui donc ne voit pas ces communautés, qui a du mal avec les corps intermédiaires organisés, mais qui a aussi du mal avec les communautés, c'est-à-dire les groupes dits primaires. Et est-ce que c'est... Alors, moi, j'ai découvert avec surprise, en lisant Louis-Georges Thin, tu dois connaître, qui dit que la France serait le seul pays qui serait comme ça. Alors, moi, je me disais, bon, on est en France dans un système qui est celui-là, c'est compliqué. Et puis, effectivement, j'aime bien aller dans d'autres pays, voir comment le terme de communauté passe et permet plein de choses. Et en fait, alors, je ne sais pas, est-ce que ça vous parle ? Est-ce que la France est vraiment le seul pays au monde comme ça ? Mais c'est dramatique. Enfin, bon. Et est-ce que ce n'est pas ça notre plus gros problème, finalement ? Voilà, comment dépasser ça ? Alors, quand j'entends, là, actualité, hein, qu'on va nous faire une loi contre le communautarisme, donc je me dis, mince, on n'est pas sorti de l'auberge, contre le repli communautaire, enfin, voilà, comment faire avancer ce sujet-là en France ?
On prend d'autres questions ?
Je poursuis, mais au niveau des termes, on dirait que vous utilisez le mot race comme un concept, alors qu'il n'y a pas longtemps, on a failli l'effacer de la Constitution de la France. Comment vous l'utilisez ? J'ai vu que la première fois où ça a été marqué, c'était entre guillemets. Bon, quand on a tourné la page, c'était deux mêmes genres. Classe était aussi entre guillemets, et pour la suite, il n'y avait plus de guillemets.
C'est plus un commentaire qu'une question, en fait, par rapport... comment ? Faut que je m'avance ? Ah, désolée. C'est plus un commentaire qu'une question. En fait, il y a un point, je pense, qui est assez intéressant, c'est que par rapport à comment on a construit le colloque, pour un souci de clarté, d'organiser les débats, on a distingué différentes thématiques. Et là, je pense que c'est une session qui montre bien que ces thématiques, elles sont liées entre elles. Et par exemple, là, on a un exemple de recherche participative. Hier, on a travaillé sur les questions de collaboration entre acteurs et chercheurs hier après-midi. Il nous a manqué un petit peu les expériences extérieures pour montrer que nous, on avait mis en place au sein de engager une forme de collaboration parmi d'autres, et qu'il y a d'autres formes de recherche collaborative, participative, recherche-action. Donc je trouve que c'est intéressant aussi que vous soyez intervenues toutes les trois sur une... Ça enrichit, si vous voulez, l'atelier d'hier après-midi, en montrant, voilà, c'est un autre exemple de recherche où la collaboration va plus loin que ce que nous, on a pu mettre en place, ou en tout cas prendre d'autres formes. Donc je pense que ça, voilà, c'est un complément à ce qu'on a pu voir hier après-midi. Aussi sur les connexions entre question de politisation et de discrimination. Là, on voit bien qu'il y a des liens assez importants. Et puis aussi sur une question, en discutant avec plusieurs d'entre vous, et puis dans les réactions, il a paru que hier matin, on a beaucoup parlé des conceptions du pouvoir d'agir du point de vue des salariés. Il y avait un peu la question, et les habitants, ils sont où ? Parce que les habitants sont présents dans les recherches qu'on a menées, sauf qu'on l'a pas forcément, on n'a pas forcément travaillé sur leur conception et représentation du pouvoir d'agir, parce que ce n'était pas forcément pertinent de le poser comme ça, sous forme d'entretien. Mais par contre, sur les questions notamment de politisation, l'objectif, c'était bien de voir les pratiques des habitants, les interactions au quotidien. Donc voilà, c'était juste une petite... un petit commentaire par rapport à l'ensemble des tables rondes pour montrer qu'il y a des liens entre elles et celle-ci montre bien, voilà, notamment sur les recherches de voilà, la question de collaboration, tout ça, que ça constitue un ensemble.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou... Moi, je veux bien en poser une, c'est peut-être un peu... Ah, oui.
C'est juste un peu d'humour parce qu'on parle de mixité. Je vois qu'il y a un seul monsieur à la table et en plus, voilà, c'est tout.
En plus, ah oui.
Bonjour, rapidement, je vais vite nous présenter. Est-ce qu'on a fait les timides hier, donc nous représentons toutes les cinq l'association CLAC sur Chinon, donc deux centres sociaux, trois FJT. J'ai pas trop voulu parler hier parce que je suis directrice que depuis août, donc moi j'ai pas vécu toute la démarche qui a été instituée avec Héloïse et puis le personnel et les administrateurs de l'association. Voilà, donc j'en parle là maintenant. Et juste une petite question par rapport à Vaux-en-Velin. Je me souviens dans les années 90, les événements de Vaux-en-Velin, hein, les voitures cramées, François Dubé qui avait écrit dessus. Est-ce qu'il n'y avait pas un petit lien juste 10 ans après? Voilà.
Moi, j'ai une question, c'est peut-être un peu l'éléphant dans le couloir aussi, mais parmi les discriminations qui ont été mentionnées, les discriminations liées à la religion ne sont pas du tout apparues, et ça m'a surpris d'en entendre si peu parler dans les interventions cet après-midi, même si ça a été évoqué par toutes petites touches. Donc voilà, j'aurais voulu vous questionner à ce sujet. Est-ce que c'est que ces discriminations-là s'articulent avec d'autres au point qu'elles s'effaceraient derrière d'autres types de discrimination? Est-ce que c'est des formes d'autocensure? Est-ce que c'est un sujet qui serait gonflé médiatiquement, mais qui se présenterait finalement peu? Enfin, voilà, quid des questions de discrimination liées à la religion? Et toutes les questions liées à l'islamophobie aussi, on pourrait peut-être, pour dire les choses.
Donc, en complément à votre remarque, j'ai été aussi surpris qu'il n'y ait aucune référence aux discriminations d'âge. Mm. Voilà.
Oui, moi, j'avais une petite question sur... Dans quelle mesure vous pensez que le fait que la thématique soit portée éventuellement par des salariés qui eux-mêmes sont les premiers concernés par ces questions-là est un facteur qui aide ou qui, à l'inverse, entrave? Dit simplement, c'est dans quelle mesure... est-ce que s'il y avait davantage de gens descendants de l'immigration postcoloniale à la direction des centres sociaux et dans les CA, ces questions seraient plus facilement abordées que ce n'est le cas aujourd'hui? Et est-ce que toi, dans ton expérience, Samia, le fait que tu aies la trajectoire qui est la tienne, ça, dans quelle mesure ça a influencé sur la façon dont le projet Policité a été perçu, sur les questions de légitimité dont tu parles? Je pense que tu es quand même sensible à cette question-là parce que probablement que toi-même, tu as aussi fait des expériences discriminatoires, etc. Et c'est peut-être encore plus difficile que de balayer d'un revers de la main ces questions comme secondaires quand soi-même on est concerné. Et donc, voilà, je pense que c'est des questions qui se jouent aussi en interne sur qui les porte. Il y a des questions sur qui porte le pouvoir d'agir, mais qui porte l'enjeu des discriminations. Donc moi, ce que j'ai vu aux États-Unis, c'est qu'il y avait des choses qui étaient possibles, et puis une forme aussi d'atténuation des relations de domination entre salariés et puis jeunes, etc., parce qu'ils avaient des expériences partagées communes. C'est-à-dire que le fait d'avoir certaines expériences de domination en commun entre salariés et jeunes habitants, etc., ici, l'expérience de la discrimination raciale, fait que y a certaines choses qui passent plus facilement et qui contribuent à ce que peut-être salariés et habitants usagers fassent communauté ou en tout cas travaillent de concert, alors que j'aurais tendance à dire que ce n'est pas toujours le cas, peut-être dans les centres sociaux, et que les salariés, parce qu'ils ne sont pas directement concernés par certains problèmes, ne vont pas forcément toujours s'en saisir. Mais c'est une hypothèse, donc j'avais envie de vous entendre là-dessus.
Moi, j'aurais bien rajouté une question sur les deux expériences. Vous avez parlé d'effets négatifs, d'effets positifs. Est-ce que vous vous pensez en termes aussi d'apprentissage, si c'était une catégorie qui vous intéresse, est-ce que chacune des deux expériences, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des apprentissages, de quel type, pour qui, différents peut-être pour les uns et pour les autres, il me semble qu'on en a entendu en fait, un petit peu dans ce que vous avez dit, mais voilà, c'était une catégorie que je n'avais pas entendue, je me demandais si elle était, vous semblait pertinente.
Moi, je veux bien commencer sur la question. Je veux bien commencer parce que, en fait, ça m'a fait un peu sourire, mais je trouve ça super intéressant, la question posée par Julien. La question posée par Julien et celle sur la question de l'islam, en fait, qui, pour moi, finalement, elles vont se rejoindre en ce qui concerne mon parcours. Je crois qu'il y a un vrai souci, et je le dis, mais super sereinement, d'autant que je me sens vraiment en confiance ici, c'est qu'il y a vraiment un problème de représentation, c'est-à-dire que c'est bien l'objet du projet Policité, c'est vraiment un travail sur la question des représentations et des interprétations. C'est-à-dire parce que je suis marron, on me prête une certaine trajectoire. Mais c'est exact, et je rencontre la même difficulté avec les publics avec lesquels je travaille, hein. C'est-à-dire qu'on m'enferme dans un « nous » que je pense important parfois quand on est d'accord sur la cause qui est à défendre, mais je n'ai pas envie de subir un « nous » qui ne m'appartiendrait pas. Donc, je n'ai jamais été discriminée par la police et j'ai été extrêmement choquée, en fait, de constater que les jeunes avec qui je travaillais, mais depuis très longtemps, ça fait longtemps que je suis choquée, outrée, je ne sais même pas quel terme utiliser, je n'ai pas beaucoup de vocabulaire, hein, j'en suis extrêmement désolée, mais de constater que les jeunes ont peur de la police, c'est-à-dire qu'on a démarré le projet parce que aussi ils me racontent que quand ils croisent la police, ils courent alors qu'ils n'ont rien fait, ils se sauvent. Et là, la police les soupçonne d'avoir fait quelque chose s'ils courent. Et pourquoi est-ce qu'ils ont peur de la police? Alors que moi, j'ai vécu à Lyon, dans un petit quartier, d'ailleurs je pensais même pas être marron jusqu'à mon entrée au collège, j'étais persuadée que j'étais blanche, parce que j'étais entourée que par des blancs, l'endroit où j'habitais c'était un petit allée, il y avait des maisons, il y avait que des blancs autour de nous, donc j'ai pas vécu de racisme en fait quand j'étais à l'école primaire, et je me suis rendu compte que j'étais différente en fait, surtout quand je suis arrivée à Vaux-en-Velin, quand j'ai commencé à travailler dans des quartiers populaires, où là, j'ai vu qu'il y avait des gens qui me ressemblaient, a priori, au moins de par leur couleur, qui parlaient en termes de nous quand j'étais avec eux, mais je ne me sentais pas du tout dans ce nous-là, parce que je n'avais pas vécu la même chose qu'eux, et je ne comprenais même pas comment est-ce que c'était possible qu'autant de marrons, de noirs, soient concentrés. J'avais quand même 18 ans, je sortais de l'école, j'avais envie de m'engager, voilà. Qu'autant de marrons, de noirs soient concentrés dans des endroits aussi moches, en plus, vraiment, des quartiers pas beaux, des allées pas belles, enfin, bref, voilà, tout ça. Donc, ma trajectoire à moi, là où elle rejoint le combat, c'est une trajectoire d'une nana qui a un père, qui est un militant, qui ne sait pas lire et qui ne sait pas écrire, mais qui était un grand militant politique du panarabisme, du panafricanisme, pardon, et qui était convaincu que l'émergence des luttes pouvait transformer les sociétés. Donc c'est comme ça que moi j'avais plutôt des portraits de Che Guevara, des portraits de Nasser, des portraits voilà, quand j'étais jeune, plutôt que des héros Scarface que j'ai découvert d'ailleurs quand je suis arrivée dans les quartiers populaires, voilà, ce type de héros. Et du coup la question de l'islamophobie, c'est une vraie question, c'est un vrai problème, et ma crainte en fait, vous parliez ce matin de certains sujets qui étaient tabous, enfin, moi j'ai une vraie difficulté en fait en tant que professionnelle à traiter de certains sujets de crainte qu'on fasse un lien, qu'on interprète ma couleur avec mon combat, c'est-à-dire que je voudrais que mon combat soit un combat universel, porté par une idéologie, celle de l'éducation populaire, parce que du coup, vous parlez de politisation, moi, quand on parle, mais vous êtes engagé politiquement, oui, Oui, sur les questions d'éducation populaire. Oui, je suis une engagée, une militante de l'éducation populaire. Et en fait, je suis obligée à chaque fois, comme pour expliquer mon engagement, de dire je suis portée par l'idéologie de l'éducation populaire. Comme si cela allait me protéger de toutes les, de tout ce qu'on pourrait me prêter des partis pris politiques, etc. Donc oui, c'est un vrai problème. Mais ma crainte, c'est que de m'engager aussi sur ce terrain-là fasse qu'on interprète que je m'engage parce que je suis une femme, parce que je suis musulmane, parce que... c'est très compliqué, quoi, quand on est un professionnel en plus, hein, quand on est salarié d'une institution, c'est compliqué. Voilà. Mon travail, elle a un lien avec ma trajectoire, mais avec ma trajectoire d'engagée féministe politique. Voilà.
Peut-être pour compléter sur la religion, pour le coup, quand on dit discrimination ethno-raciale, alors dans le projet de départ, on regardait aussi discrimination liée à la religion. Et là, par exemple, pour le collectif Vivre Ensemble Égalité, je ne sais pas si le micro marche, ah si quand même, dans le collectif Vivre Ensemble Égalité, ils ont eu affaire aussi à des cas, notamment au lycée, où ils sont intervenus sur des discriminations liées à la religion. Et ils ont, enfin, c'était dans leur, en fait, souvent, on parle d'ailleurs de racisme anti-musulman. Finalement, la religion musulmane est devenue une, on peut la qualifier de race sociologique pour répondre à la question de race. On utilise race de manière sociologique parce que, voilà, on est d'accord que les races scientifiques biologiques n'existent pas, mais ça existe dans les interactions entre les individus et les institutions aussi. Et voilà. Et pour revenir aussi sur la première question sur communauté, ça c'est quelque chose effectivement quand on traduit community organizing, on a du mal à traduire community organizing en français du fait que community n'a pas du tout le même sens en anglais et en français. Community en anglais c'est assez plutôt valorisant, alors que communauté en français c'est plutôt péjoratif, et c'est lié à la tradition philosophico-politique française issue des Lumières, la Révolution française effectivement, qui dit pour viser cet idéal d'égalité il faut des individus qui soient atomisés, qui soient seuls, pour pas qu'il y ait de parasites à la formation de l'intérêt général. Et du coup les communautés sont vues, alors il y a aussi l'histoire de la religion derrière qui va se mettre qui va aussi renforcer encore plus cette vision péjorative des communautés religieuses. Mais déjà sur les communautés, c'est bien pour ça qu'on interdit aussi les associations qui sont réintroduites en 1901. Et on reste quand même, même si on est revenu vers finalement une sorte de pragmatisme, en fait, quand même, l'être humain s'associe et vit d'abord dans des petites sociétés, hein, et dans des entre-soi familiaux, amicaux, de travail, d'associations. Et on est revenu quand même, on est redevenu un peu pragmatique, mais on reste quand même avec cet idéal, ce faux idéal un peu, qu'on a du mal à, on a du mal à s'en séparer, effectivement. Et c'est un gros problème qui, en plus, couplé avec une certaine haine de la religion portée pas mal en France aussi, fait que les communautés religieuses, et alors encore plus celles qui viennent de pays anciennement colonisés, font qu'il y a un gros problème en France. Et effectivement, moi, je pense que c'est un des principaux problèmes en ce moment qui font qu'on ne peut pas faire société tant qu'on ne reconnaîtra pas l'importance différentes appartenances, tant qu'on ne verra pas les communautés comme quelque chose de positif avant tout. C'est des lieux de socialisation, c'est des lieux d'entraide, c'est des lieux où on apprend pas mal de compétences politiques et après, on peut les exercer par ailleurs, dans d'autres cercles. Pour moi, c'est des lieux d'entrée dans le politique. Et qu'est-ce que j'allais dire sur... les apprentissages. Merci beaucoup. Sur les apprentissages, j'ai l'impression qu'on l'avait dit quand même un peu en disant, par exemple, cet animateur qui va utiliser un peu toutes les compétences qu'il a acquis dans le collectif et les connaissances aussi sur la lutte contre les discriminations, il va les utiliser en se présentant sur une liste et en étant élu sur les membres du collectif qui, 2 ans après, en gros en 2017, 2 ans après la fin du collectif, vont se remobiliser dans une association en dehors du centre social, juste entre eux, qui s'appelle Émergence 33. Donc ils réutilisent bien sûr toutes ces compétences-là. Donc oui, bien sûr. Et puis alors dans le cas du collectif Policité, c'est encore plus, le cas. C'est juste qu'on le suit de plus près, mais sur les compétences d'animation de réunion, de création d'association. Il y a un des jeunes qui a créé sa propre association, un autre jeune qui a totalement changé sa trajectoire scolaire du fait de son implication. Enfin, je dirais que là où il y a le plus d'effet, c'est quand on regarde les trajectoires individuelles, et notamment en termes d'acquisition de compétences diverses et variées, de leadership, mais pas que, quoi.
Juste répondre sur la question des émeutes à Vaux-en-Velin, quel lien il peut y avoir avec le projet Policité, parce que je trouve que c'est une très bonne question et qu'on n'avait pas du tout anticipé. Pour nous, c'était du passé, c'était il y a 30 ans et 90 et encore si on suit Michel Zancarini-Fournel, ça remonte même plutôt à 70, les toutes premières expériences de tension et de violence. Mais bref, donc pour nous, c'était de l'histoire ancienne. Mais pour les jeunes, c'est pas du tout de l'histoire ancienne, parce que les jeunes d'aujourd'hui, c'est les enfants, les cousins, les neveux de ceux qui se sont bagarrés au début des années, en 90. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une communauté d'expériences et qu'il y a des récits qui se transmettent. Et quand on fait les entretiens avec les jeunes, on a commencé vers autour de 12-13 ans, les entretiens, ils ont tous la haine, en fait. Ils n'ont pas d'expérience directe avec la police, mais c'est des chiens. Ils ont tous le même vocabulaire, les decks, les bâtards, les cochons, c'est très homogène, et ces récits, en fait, ils sont transmis par une communauté d'expérience. Et ce qui est important, c'est que ça donne des cadres d'interprétation du moindre geste des policiers qui passent dans le quartier. Et Policité, c'est aussi un enjeu de pouvoir faire émerger éventuellement d'autres récits. D'autres cadres d'interprétation sans verser non plus dans l'angélisme. Et aussi dans les entretiens, les entretiens, donc on les a fait avec les jeunes qui étaient des co-chercheurs, et du coup les autres jeunes se livraient beaucoup plus facilement. Et par exemple, on s'est aperçu, c'était pas une question qu'on avait au départ, mais que tous les jeunes qu'on interrogeait, passés 12-13 ans, en fait, ils avaient tous fait les émeutes et il n'y avait aucun problème pour en parler. Et ils en parlent vraiment sur le registre plutôt des révoltes populaires, des révoltes de comment on manifeste son sentiment d'injustice. Parce qu'il y a toujours, en fait, chaque été, le rituel des petites émeutes, le 14 juillet. Donc ça aussi, c'est de la transmission, c'est un héritage avec de l'émulation d'une année sur l'autre. Et je pense que les centres sociaux étant implantés dans les quartiers populaires, cette question des révoltes populaires, ça me semble être une vraie question à prendre à bras le corps et qui permet de parler de beaucoup de choses, en fait, avec les jeunes et de tenir compte de leur sentiment d'injustice.
Ils n'ont jamais été résolus. Qu'ils existent depuis des années dans tous les quartiers de France. C'est pas une question de transmission, ça. Excusez-moi de répondre là à ce que vous dites là, parce que ça me... C'est parce qu'on veut pas résoudre les vrais problèmes. On veut pas les voir en face et être réaliste.
Mais moi, je suis bien d'accord.
Et faire les choses et les prendre à la base et faire avec les gens qui agissent, quoi, qui sont déjà dans le terrain, et injecter de l'argent et pas injecter de la drogue. Faire les choses concrètement, réellement, quoi. Merde, excusez-moi. Ces jeunes, ils auraient à faire plein de choses. Ils ont une intelligence, ils sont nés intelligents. Ils pourraient devenir des futurs étudiants, doctorants, là, et nous faire comme a fait le jeune, là. Non, ils ont eu une autre trajectoire parce qu'ils n'ont pas eu le même destin et c'est pas égal sur les territoires. On ne fait pas la même chose des minorités. On ne leur donne pas les mêmes moyens. Donc c'est une réalité aussi. Puis aussi, je n'ai pas envie de prendre la place de victime, parce que depuis tout à l'heure, la victimisation et tout. Tout ça, c'est la réalité, quoi. Ça existe encore en 2020. Et bon sang de bonsoir, ça changera quand? Parce que les émeutes, tous les jours, ça pourrait se déclencher dans nos quartiers.
parce que les moyens, ils ne sont pas là. Les jeunes, ils résistent. Les familles, elles résistent aussi, elles survivent. Et ça, c'est une réalité. Et la jeunesse, c'est l'avenir, normalement. C'est des jeunes français nés dans les territoires français qui ne sont même pas reconnus. Français, on parle d'eux, on parle de leurs origines, de leur... Il y a toujours cette fracture, ce racisme. On parle toujours des mots qu'on a parlé depuis que mes parents sont arrivés en France en 1982 et même des autres. C'est triste, quoi. Moi, ça me prend au trip, quoi. C'est triste de plus avoir à, d'en avoir encore à parler de tout ça, alors que c'est une jeunesse française qui demande à s'épanouir. C'est des fleurs qu'on a dans les quartiers, c'est des personnes qui ont des choses à montrer à la France et qui ont des belles choses à montrer, parce que quand on leur donne confiance et qu'on leur tient la main, bah ils font des belles choses, ces jeunes. Il ne faut pas leur faire que des prisons, merde. Comme ce qu'il disait Julien, le même modèle aux États-Unis, là, c'est la même chose en France. Dès qu'on est catalogué, qu'on est des délinquants, hop, on passe en prison. Et quand on passe en prison, on devient quoi si c'est pas qu'un déchet? Comment on fait pour se reconstruire à partir de là si on n'a pas quelqu'un qui nous tend la main? Excusez-moi.
Moi, je voudrais... Je voudrais poursuivre un petit peu le propos de Madame dit avec beaucoup d'émotion, et elle a raison. Je vais vous raconter juste une petite anecdote. Dimanche, j'avais une réunion avec des jeunes du collectif Policité, et le café où on va d'habitude à Vau-en-Velin, il est fermé. Donc il me dit, un des leaders, Naïm, me dit, on va se retrouver au Mas du Taureau. Bah, du Taureau, les nanas, elles vont pas dans les... Il n'y a pas de café dit bien pour qu'une femme, voilà, comme moi, de 54 ans, puisse y aller. Mais je ne suis pas du tout gênée par ça. Donc, je lui dis, OK, pas de problème. Mais le garçon qui était avec moi, lui, il était extrêmement gêné. Il me dit, Samia, il y a que des gars là-bas. Je lui dis, c'est pas grave. Je les connais de toute façon, puisque je suis plus âgée qu'eux et je les ai forcément eus ou rencontrés. On va dans ce snack. Et à l'étage, je me dis, ça fait quand même 30 ans que je travaille à Vau-en-Velin, j'en ai vu des trucs. Hein. Et à chaque fois que j'en vois, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible que ça existe. Et là, c'est encore une autre dimension d'une jeunesse qui pourtant, et vous avez raison, c'est pour ça que j'avais envie de vous raconter cette anecdote. Nous savons, nous, que cette jeunesse, elle est intelligente. Nous savons qu'elle est capable. Nous savons que les effets d'ordre économique, sociétaux, etc., les mènent dans des chemins qui ne sont pas ceux qu'ils auraient pu ou qu'ils auraient dû suivre. Et nous savons que ces pépites-là, quand elles sont accompagnées, elles peuvent faire des choses magnifiques, puisque tout à l'heure, Hélène disait, on a par exemple sur les résultats, là, les apprentissages, bah, on a un gars qui était vraiment une... Je lui disais, mais il faut aller t'acheter un cerveau, c'est pas possible. Hein. Il était en troisième. En troisième, il est membre du collectif Policité. Il était infernal. Résultat scolaire infernal. Et puis, en première, donc on travaille, il rencontre les chercheurs, il se fait aider par... Parce que c'est ça aussi l'avantage. Hein. Parce qu'en fait, il faut que nous, on soit aussi des opportunistes. Vous savez, les opportunistes révolutionnaires, ils n'étaient pas cons hein, de dire qu'il fallait être opportuniste. Hein. C'est-à-dire que travailler avec des chercheurs, c'est mettre un pied dans l'ENTPE, c'est être en contact avec des étudiants de l'ENTPE qui peuvent accompagner nos jeunes dans leur scolarité. Donc lui, par exemple, il a bénéficié de certains étudiants qui lui donnaient des cours le soir, etc., gratos à l'ENTPE. Ben maintenant, il est dans une classe prépa. Et vous savez comment ses copains l'appellent ? Jean-Charles. Il s'appelle Abdallah. Pourquoi ? Parce que le langage, la posture... Les attitudes, les ambitions, elles ont changé. Pour eux, il semblerait qu'ils ressemblent plus à un Jean-Charles qu'à un Abdallah. Il faut que l'idée qu'Abdallah puisse être comme ça, ça rentre dans nos têtes. C'est normal, c'est possible. Et ils continuent à s'habiller en survêtement, parce qu'en plus, moi j'ai un problème avec ça. C'est-à-dire que je leur dis, faut sortir du survêtement. Mais en fait, ils ont fait du survêtement, grâce à Hélène, un vêtement de résistance. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de ressembler véritablement aux gens Charles pour être reconnus comme des gens intelligents. Il faut qu'on nous regarde comme des gens intelligents, de fait. Donc vous avez raison de dire. Mais ce combat-là, il est à mener véritablement ensemble. Juste pour terminer, ce qui m'a choquée, c'est qu'à l'étage où je suis montée, d'abord, il n'y avait aucune nana. Mais j'aime aller dans ces endroits où il n'y a aucune nana, parce que je me dis, c'est aussi dire que c'est possible pour des femmes respectables d'aller dans ces endroits-là. Personne ne m'a refusé l'entrée, hein. Donc c'est aussi la question des représentations, hein. Et j'ai été super bien accueillie d'ailleurs. Mais il y avait des mecs qui avaient un, il a posé son matos, vous allez tous me comprendre, je vous en rentre dans les détails, il coupe, fait son train-train, il fait son business quoi, fait son business, et puis il parle politique avec moi. Et puis il me dit, non mais madame, vous voulez monter un parti? Parce qu'il n'a pas compris en fait ce qu'on était vraiment en train de dire. Il prenait la discussion. Je lui dis, non, je ne vais pas monter de parti moi. Mais on est persuadé qu'au Mas du Taureau, par exemple, si tous les gens allaient voter, ça ferait quand même un sacré poids. Quoi, ça. Puis Abdelhak qui enchérit, donc le Jean-Charles là, qui enchérit. Et il me dit, voyez moi madame, je suis quelqu'un qui ne sait pas lire et qui ne sait pas écrire. Et personne ne me respecte. Je vais à la mission locale, on ne m'écoute pas. Je vais au Pôle emploi, ils me disent de toute façon, vous avez trop de difficultés, etc. Je dis, mais pourtant, tu sais parler. Tu t'exprimes bien. Je te comprends, tu es un garçon intelligent. En fait, il y a un problème d'estime de soi qui est tellement malmené depuis le plus jeune âge qu'ils attendent de nous qu'on les regarde. Mais nous, au moins, dans les centres sociaux, nous, avec les chercheurs, nous, avec. Enfin, en fait, avec tous les blancs qu'on pourrait rassembler autour de nous en plus. Quoi, je veux dire, hein, pour qu'ils les regardent comme des gens tout à fait capables, quoi. Et c'est cette image-là qui va leur renvoyer le fait qu'effectivement, ils sont capables. Hein. Tout à l'heure, j'avais envie de vous dire, si vous ne me regardez pas comme une Française, je ne peux pas l'être, quoi. Enfin, je veux dire, je ne peux pas, moi, me dire, je ne peux pas sans cesse dire, je suis Française. Il faut que vous me regardiez comme telle pour que je le devienne réellement. Bah, c'est ça, en fait, avec eux, qu'on les regarde comme des gens intelligents et parce qu'ils le sont. Donc, ils adopteront les autres attitudes, voilà, d'autres attitudes.
Juste pour compléter là-dessus, parce que il me semble effectivement que c'est des questions extrêmement importantes. Ce qu'on a observé aussi quand même régulièrement dans les centres sociaux, mais de ce point de vue-là, il n'y a pas de particularité des centres sociaux, ils sont le reflet de processus bien plus large de la société française. C'est effectivement un ensemble de représentations et de mots qui sont utilisés, qui maintiennent aussi des formes d'extériorité de certains et de certaines. Par exemple, dire les Français pour parler des Blancs. Tant qu'on continuera à utiliser le mot les Français pour parler des Blancs, bien évidemment, les Français qui ne sont pas Blancs ne seront pas considérés comme des égaux. Et là, il me semble qu'il y a effectivement tout un travail à mener. Parce que, comme le disait Hélène, c'est vrai qu'on est dans une histoire philosophique et politique spécifique en France, où on a toujours eu du mal à penser dans le même temps l'égalité et la différence. Il y a une pensée de l'égalité qui est que pour être égaux, il faut gommer toutes les particularités et que c'est la condition pour l'égalité. Et on n'arrive pas à penser le fait qu'on puisse être à la fois différent et égaux. Et ça, c'est une difficulté historique qui remonte à loin et qui explique aussi qu'on ait ces difficultés. Et juste un dernier petit point. Moi, j'ai effectivement, sur ces formes d'autocensure, j'ai souvenir en 2013 d'avoir travaillé avec un animateur de centre social qui voulait organiser pour les 30 ans de la marche pour l'égalité de 83 un événement dans son quartier, en disant, les jeunes avec lesquels je travaille, ils sont toujours confrontés à des questions de discrimination et on ne connaît pas suffisamment cette partie-là de l'histoire de France, la marche de 83 pour l'égalité et contre le racisme. Et ce serait bien d'organiser une soirée débat pour partager cette histoire-là. C'est l'histoire de la France. Et donc on discute, on regarde un certain nombre de ressources, de films, de documentaires qui existent là-dessus pour essayer d'envisager l'organisation d'une soirée en décembre 2013 pour les 30 ans. Et puis finalement, au bout de 2 semaines, on se revoit et il me dit « Non, je vais pas le faire parce que si je le fais, on va me taxer de communautarisme. » Et du coup, il n'a rien organisé. Alors que son idée de départ était que c'était pas l'histoire d'une partie de la société française, c'était l'histoire de France. et qu'il était important de parler ensemble de ce morceau-là d'Histoire de France. Donc c'est pour dire qu'effectivement, là, il y a un ensemble de représentations qui continuent à considérer que certains sont plus français que d'autres. C'est comme dans La ferme des animaux de Orwell, merci pour ceux qui, celles qui suivent. Dans La ferme des animaux, certains animaux sont plus égaux que d'autres. Ben, je crois que là, il y a du travail à faire là-dessus aussi.
Ouais, juste, moi, je suis très surpris qu'on puisse parler de Vaux-en-Velin dans les années 90 sous l'angle des voitures brûlées plutôt que sous l'angle des crimes policiers. Enfin, les émeutes, elles naissent pas sur un espèce de truc bizarre. Les jeunes s'ennuient et brûlent des voitures. C'est quand même essentiellement du fait de l'action de la police et des crimes policiers et des violences policières qui sont quotidiennes dans ces espaces. Et donc, je rejoins ce que disait Nora, c'est pas une transmission. C'est quelque chose d'un peu spontané de... la haine de la police, une fois qu'on s'est fait insulter, qu'on s'est fait taper dessus, qu'on s'est pris des tirs de LBD parce qu'on se baladait trop près d'une intervention de police. Et enfin, on les voit, hein, c'est quotidiennement dans l'agglomération de Tours qu'il y a un comportement raciste, discriminant et violent des policiers à l'égard des jeunes des différents quartiers de reconquête républicaine, puisque c'est maintenant comme ça qu'ils sont appelés. Les émeutes, elles viennent de là, et qu'on les nomme sous l'angle des voitures brûlées plutôt que sous l'angle des violences policières, je trouve ça assez choquant.
Avant de prendre une autre question, en fait, je voulais dire juste deux mots par rapport à la question sur les discriminations religieuses que Anna Perraudin en fait a posée. C'est par rapport en fait à notre recherche sur les centres sociaux, parce que on a pu observer en fait certains cas au sein des centres sociaux. Ce qu'on a senti et vu, c'est qu'il y a en fait une hésitation à comment gérer de demandes liées en fait à la religion musulmane. Donc on ne sait pas quoi faire en fait parfois avec l'islam, et c'était en fait révélé à partir du cas en fait de la demande des femmes d'un quartier en fait qui voulaient avoir des cours d'arabe, et que tout le monde savait en fait plus ou moins que l'objectif de ces cours d'arabe c'était pour pouvoir lire le Coran, parce que dans les propos des femmes en fait ça se révélait que bon, elles ont envie de pouvoir lire elles-mêmes pour pouvoir transmettre en fait les messages de ce livre sacré à leurs enfants d'une manière directe. Donc il y avait cette motivation, mais en même temps il y avait aussi des demandes du coup d'un cours non mixte. C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas des hommes en fait dans ce cours, et du coup on ne savait pas comment gérer cette situation. Et moi je pense que plus que la discrimination, en fait on ne peut pas peut-être le qualifier de discrimination, mais on ne sait pas en fait comment gérer, je pense, au sein des centres sociaux, des demandes qui viennent notamment des communautés musulmanes. C'est pareil en fait quand il y a des demandes de faire une veillée de Ramadan. C'est pareil, en fait, comment on va faire? Alors, genre, est-ce qu'on va permettre, est-ce qu'on va pas permettre? Et je pense que c'est lié aussi au fait qu'on a peur un peu, je pense, hein, au sein des centres sociaux, de l'image qu'on m'a donnée aussi à l'extérieur, de ce que les autres publics ciblés du centre social vont penser, en fait, de l'image du centre social. Comment on va garder en fait notre neutralité vis-à-vis de telle religion? Je pense que ce sont des questions en fait sur lesquelles il faut vraiment réfléchir, et notamment en fait sur la place de l'islam. Comment on la gère? Par quels moyens? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle stratégie qu'on développe par rapport à ça?
Bonjour. Alors moi, je viens en tant que... Bon, j'étais pas au courant de cette réunion. Je viens un peu, pas par hasard, mais je viens à titre de gréviste pour la réforme des retraites. Je trouve qu'il y a, de toute façon, tout le monde est complètement concerné. Là, j'entends des choses super intéressantes, et notamment pour les femmes, qui sont les premières impactées, hein, dans cette réforme, et tout le monde y est. Je ne vais pas être longue, j'ai quelques tracts s'il y a des gens qui sont intéressés, mais tout le monde est concerné. On parle de collectif dans une grève. S'il n'y a pas de collectif, voilà. Moi, je suis de l'éducation nationale, c'est compliqué, hein, mais je pense que si... Voilà, on est en colère contre plein de choses. Et on a le droit d'être en colère contre plein de choses. La santé va mal, l'éducation va extrêmement mal, les quartiers, je ne connais pas bien, mais je travaille quand même dans certains quartiers, c'est très très dur. Je pense que c'est une question de toute façon politique. Donc voilà, je suis contente d'être là en fait, et j'aurais dû venir avant. Je suis arrivée très en retard, on nous avait donné rendez-vous à 16h. Voilà, j'ai quelques tracts là pour s'il y a des gens qui sont intéressés, et je vous donne la parole.
Est-ce que... Non ?
Je voulais juste dire un tout petit mot par rapport à ce que disait Gulcine, c'est que moi je pense que c'est mon sentiment, mais après moi je serais intéressé de voir comment les travailleurs sociaux dans les centres réagissent, mais la chape de plomb sur les questions de laïcité, par exemple organiser une veillée à l'occasion du Ramadan, elle existe parce qu'il y a eu des sanctions. Il y a des centres sociaux en Dordogne qui ont perdu leur agrément CAF parce qu'ils avaient organisé des veillées à l'occasion du Ramadan, c'est-à-dire plusieurs centaines de milliers d'euros qui sont perdus par un centre social parce que, soi-disant, ça contreviendrait au principe de laïcité. Et donc, les sanctions institutionnelles... Comment ?
La veillée de Noël, c'est possible.
Oui, mais je suis bien d'accord avec vous. Non, mais c'est tout le problème. Et donc, il y a aujourd'hui quand même les chartes de la laïcité, etc., qui existent en Ile-de-France, par exemple, me semble-t-il, qui sont un moyen d'émasculer quand même la capacité des centres sociaux à être des vecteurs d'égalité et de lutte contre les discriminations, quoi. Et donc, voilà, mais perdre son agrément CAF parce qu'on organise une veillée de Ramadan, quoi. On en est là. Et donc, les craintes des travailleurs sociaux sont, d'une certaine façon, entendables.
Et j'y vais.
Attendez, ça arrive, il arrive.
Oui, je voulais rebondir sur ce que tu disais. En effet, c'est une crainte pour la veillée de Noël, enfin, je veux dire, pour la... Si on a fait une espèce de Noël quand même, au sens... mais voilà, on se pose la question, on essaye de plus appeler vacances de Pâques, c'est vacances d'avril, c'est plus vacances de Noël, c'est vacances de fin d'année. Il y a des demandes chaque année pour organiser, il n'y a pas de salle au Sanitas pour la population pour organiser le Ramadan, la fin du Ramadan ou une fête pour le Ramadan, peu importe. Moi je voulais faire le lien avec la fête de la musique. On a fait la fête de la musique pour la première fois dans le quartier depuis très longtemps. Une grande réussite, il y avait plein de monde, 800 personnes qui sont passées au moins, enfin, c'était super bien. Et le seul retour que j'ai eu des élus, c'était il y avait trop de noirs. C'était communautaire. Voilà. Ben on ne sait pas quoi dire. J'étais là, j'ai dit, bah ouais, mais il n'y avait pas que ça, puis il y avait tout le monde, et puis je veux dire, c'est ça. Donc voilà, tout de suite, il y a cette espèce de chape de plomb, je ne sais plus comment tu disais, ce couperet, en fait, qui... Mais en tout cas, on s'est dit, nous, qu'on allait faire quelque chose pour la fin du Ramadan, parce que tant qu'il n'y a pas de salle, voilà, peut-être qu'on appellera aussi avec un autre nom, voilà, on va faire un peu de biais par-dessous, mais voilà, enfin, je vais tout à fait dans ton sens. Moi j'avais une autre question, je voulais rebondir, puis j'avais une question quand même. J'ai eu une petite anecdote, une jeune qui est venue, moi je suis directeur du centre social pluriel, et j'ai une jeune qui est venue et qui me fait « Ouais Julien, je veux un stage avec toi ». Je dis « Bah moi je prends pas de stagiaire ». Je fais « Non, mais je veux pas aller au stage de découverte, de Pôle emploi. Non, mais moi, je prends pas de stagiaire, j'ai pas le temps et tout. Ouais, mais non, je veux pas aller à la jeunesse, je veux pas faire de l'animation, tout ça, je veux aller avec toi. » Je dis « Pourquoi tu veux venir avec moi ?»« Bah, parce que je veux apprendre à gérer des réunions, faire des invitations, gérer des gens, machin. » Je dis « Mais tu veux un stage de chef ?»« Ah ouais, c'est ça ce que je veux. Je veux un stage de chef. » Et je trouvais ça génial, du coup je l'ai pris en stage, parce que je fais jamais. Je trouvais ça génial, le culot. Et puis après je me suis dit « Mais en fait... » Et c'est pour ça me faisait penser au community organizing, le côté où les Américains n'ont pas problème avec ça. Comment dire, autour du leadership et finalement d'essayer de travailler sur les leaders des quartiers populaires et d'essayer de trouver de les élever, voilà, d'essayer de les faire monter en compétences. Je trouve pas mes mots. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez, voilà.
Alors après cette dernière question, on va repasser. Oui. Alors on prend une autre dernière question et puis il faudra laisser la parole à Régis Cortesero pour la conclusion.
Alors c'est terminé. Donc c'est bon.
C'est terminé. Alors est-ce qu'il y a des dernières réactions parmi les intervenants peut-être?
Oui, peut-être juste pour dire, monsieur, effectivement, je pense que vous avez tout à fait raison. 90, avant d'être les émeutes, c'est la mort de Thomas Clodio. Mais en même temps, les jeunes... pour eux, ça marque aussi le début d'une phase de révolte. Et donc, eux parlent des émeutes. Mais il faut effectivement replacer ça en perspective, je suis bien d'accord. Et quand je parlais de transmission, je n'ai pas dû être claire. C'est juste que, donc pour reprendre les catégories de Samia, puisque pour travailler avec elle, maintenant j'ai les mêmes catégories qu'elle, quand un petit blanc inné, où il commence à aller à l'école... voilà, son cadre d'interprétation du monde, c'est le discours sur l'égalité. Quand un gamin dans un quartier populaire se socialise dans le quartier, c'est pas ce récit-là qu'il entend. C'est en face. J'ai plein d'exemples d'entretiens, mais c'est tu dois les fuir, ils ont tous les droits, tu peux te faire tabasser en garde à vue à l'âge de 10 ans. Voilà, donc c'est des récits, c'est des cadres d'interprétation en fait qui sont, à mon avis, transmis. Et je pense que une partie du travail pour changer les choses, ça passe aussi par faire émerger des nouveaux récits, c'est ce que je voulais dire.
Parce que ce que vous disiez me fait penser un peu au travail qu'on mène. Bon, moi, j'ai rien formalisé du tout. En fait, je forme des leaders. Et c'est pour ça que travailler sur 15, tout à l'heure, je disais l'injonction là, qu'il faut faire du chiffre, hein, du nombre, quoi. Et le choix que nous avons fait, mais je suis soutenue par ailleurs, hein, pour ça, après avoir expliqué, bien entendu, la stratégie, c'est passer par la formation des leaders. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai pas formalisé de formation. Cependant, dans le processus de la formation des leaders, aujourd'hui, ça passe par la participation à des projets qu'on met en place à court, moyen, long terme, puis l'implication et la relation horizontale qu'on a ensemble, donc qui participent à toutes les réunions quand ils sont sur des projets à long terme citoyens, à toutes les réunions avec les représentants institutionnels. On est transparent sur les décisions. On a mis en place une sorte de process pour avancer dans le projet. Et ça maintient la mobilisation. Et en fait, c'est beaucoup plus efficace que de vouloir en former 50, mais en très peu de temps, parce qu'eux deviennent les relais sur leur territoire, sur les différents quartiers où ils habitent, de ce type de processus-là de formation, en fait. Et c'est eux aussi qui apportent, qui amènent, qui font venir les plus éloignés des structures, les gamins au centre social. Donc en fait, c'est nos meilleurs alliés, les agents mobilisateurs en fait les plus efficaces. Ils deviennent aussi les agents mobilisateurs très efficaces.